Oui, bonjour. Pour me présenter, je dirais que depuis une quinzaine d'années, après un exercice professionnel antérieur où je me préoccupais essentiellement de questions de formation des adultes dans diverses positions, parce que le secteur ayant changé, les trajectoires professionnelles nous ont amené à explorer plusieurs fonctions. Après ça, depuis une quinzaine d'années, je travaille sur les rapports entre travail et formation. Voilà, on va le dire comme ça. Ça me paraît résumer ce que j'ai fait. Et ce que j'avais prévu de traiter avec vous ce matin, c'était de commencer justement par la notion de travail. Et quand j'ai entendu Françoise et puis ensuite M. Bourdoncle intervenir, je me suis dit que finalement ils avaient dit l'essentiel de ce qu'il fallait sans doute avoir en perspective sur cette notion. Et donc je vais retourner ma veste. Et si j'avais choisi de parler du travail pour commencer, c'est parce qu'il me semblait qu'hier, le terme avait été absent un peu de nos débats. On avait beaucoup parlé compétences et on avait beaucoup parlé professionnalisation. J'avais envie de dire, parlons un peu travail. Puisque cela a été largement fait, je vais essayer d'ajouter un nouveau terme à notre panoplie de réflexion. Et je vous proposerai de centrer mon intervention autour de la notion d'activité. Et je repartirai pour cela de ce qui vient d'être dit sur le travail et je ferai des liens avec ce qui a été dit hier sur la notion de compétence. Alors, Françoise l'évoquait à l'instant, lorsqu'on parle du travail, on met l'accent, notamment dans la tradition à laquelle je me réfère le plus volontiers, qui est le champ pluridisciplinaire qu'on appelle souvent les analyses du travail, dans lequel se rencontrent des psychologues, des sociologues, des ergonomes, notamment dans la tradition qu'on appelle d'ergonomie de langue française, qui a la spécificité de souligner, d'attirer particulièrement l'attention, d'être particulièrement attentive à la mobilisation des sujets, des hommes et des femmes qui font le travail. C'est-à-dire que il y a des tas d'ergonomies, des tas d'approches ergonomiques qui vont se centrer, par exemple, sur les facteurs environnementaux ou sur les processus. Il y a toute une tradition, souvent étiquetée francophone, qui s'intéresse notamment à l'aspect mobilisation individuelle, subjective, rajouterais-je, pour pouvoir effectuer le travail. Parce que, comme le disait Françoise, et je partage volontiers son point de vue, et comme l'a rappelé Christophe Dejour, le travail est toujours une énigme, c'est-à-dire, de mon point de vue, qu'il est toujours à comprendre. Ce qui revient à dire quoi ? Ce qui revient à dire d'abord que il faut considérer avec intérêt et distance la prolifération de discours sur le travail d'autrui. Parce que bien entendu, si je dis que le travail est à comprendre, ça ne veut nullement dire qu'on n'en sait rien et que rien n'a été dit. Au contraire, dans toutes les situations professionnelles, dans l'enseignement comme dans les autres, il y a une multitude de discours qui viennent dire ce que le travail doit être, devrait être, aurait intérêt à être, aurait dû être, etc., etc. J'épingle juste, pour que ce soit présent à l'esprit, bien sûr le discours de la prescription, le chef, la prescription hiérarchique, mais aussi le discours de la qualité, le discours du médecin du travail, le discours du préventeur, le discours du collègue, le discours du tiers, du client, du fournisseur, enfin bref. Tout le monde a quelque chose à dire sur la façon dont le travail doit être fait. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est de souligner, ce que l'on sait déjà, hein, mais de le rappeler, que ces prescriptions, évidemment, ne sont pas nécessairement coordonnées. Ce sont des tas d'acteurs divers dans le système social qui le font de leur point de vue, de leurs intérêts, de leurs enjeux. Et que donc, sur la tête de l'opérateur, s'accumule une série de prescriptions. Et je pense que c'est là peut-être déjà un indicateur intéressant pour comprendre la notion de compétence dans ce qu'elle a de potentiellement violent. L'opérateur s'accumule une série de prescriptions qui ne sont pas nécessairement coordonnées, qui ne sont pas nécessairement cohérentes, qui ne sont pas nécessairement convergentes. Et une des difficultés, on pourrait dire une des prouesses du travail ordinaire, c'est sans doute de faire en sorte que l'on puisse réussir à travailler malgré tout, c'est-à-dire d'abord et avant tout, pouvoir mettre de l'ordre dans cette profusion de discours qui nous disent ce qu'on devrait faire. Mais ce n'est pas tout. Il me semble qu'il y a encore deux autres aspects qui viennent rendre à coup sûr encore plus complexe l'action professionnelle. Le premier aspect, j'y insisterai peu parce que je suppose que c'est pour tout le monde très évident, on pourrait revenir dans la discussion, c'est le fait que l'action professionnelle a toujours une dimension singulière. Et que, je ne vais pas revenir là-dessus, singulière, mais je voudrais juste rappeler les deux sources principales que l'ergonomie et la psychologie du travail donnent de la singularité de l'action professionnelle. La première source, ce sont les variations de contexte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et ce que nous savons tous dans l'expérience quotidienne que nous en avons, les contextes ne sont jamais exactement comme on dit qu'ils devraient être, et ils ne se répètent pas exactement dans le même état. La deuxième chose, c'est que les sujets, eux aussi, parfois ne sont peut-être pas exactement comme on dit qu'ils sont, mais surtout ne sont jamais dans le même état. Quand l'on travaille le matin et le soir, en début et en fin de semaine, etc., etc., je vous passe tous les détails, la variabilité des situations, couplée à la variabilité des états de sujet, explique la dimension singulière de la configuration du contexte au moment où il faut agir, et donc la singularité de l'action pour qu'elle soit ajustée, pertinente, c'est-à-dire pour qu'il y ait compétence. Cela a été beaucoup développé par la psychologie, je crois. Je voudrais rajouter ici autre chose, c'est que, Dieu merci, les contextes et les sujets ne font pas que varier. C'est-à-dire qu'il y a, en même temps qu'il y a une singularité fondamentale des situations et des actions, il y a une part de régularité, évidemment, et que, là encore, je voudrais évoquer deux sources, parce que ça nous permet de comprendre le travail. Deux sources, au moins, il y en a d'autres, mais au moins deux sources de régularité, deux éléments qui vont dans ce sens. La première, j'y reviens pas, je ne l'ai pas dit dans la présentation, mais vous l'aviez sans doute deviné à m'écouter, je ne suis pas sociologue, ni de formation, ni de profession, mais il y a tous les systèmes sociaux. Les systèmes de travail sont organisés. Il y a des règles, il y a des prescriptions, il y a des grades, il y a des normes, il y a des organigrammes, il y a des processus de travail, et tout ceci joue un rôle très important pour la stabilisation. Et que cette stabilisation est tout à fait nécessaire si l'on veut imaginer les systèmes de coopération que le travail suppose, comme avec l'amont, avec l'aval, etc. Il y a un autre système de source de régularité, c'est l'ensemble des systèmes techniques. Et par système technique, j'entends bien sûr, parce que mon expérience a été notamment dans ce domaine-là, les systèmes industriels, que vous pourriez peut-être écarter d'un revers de main, mais aussi tous les systèmes techniques liés au fonctionnement du système des services, et entre parenthèses ou entre guillemets, comme vous voulez, y compris dans leur version bureaucratique, finalement, lorsqu'on organise le travail administratif avec des procédures, des autorisations, des agréments, des délégations de crédit, des engagements, des choses comme ça, on a également des processus qui nous permettent d'injecter de la régularité dans les systèmes. Alors, cela me paraît tout à fait important pour définir la notion de compétence. Parce qu'il me semble que la compétence, c'est entre autres, alors je le prends d'un point de vue un peu adjacent pour l'instant, c'est entre autres la capacité que l'on va attribuer à certains sujets de pouvoir construire une action qui soit ajustée à la singularité de la situation, et qui puisse prendre en compte la régularité des exigences qui pèsent sur la tête de l'opérateur. Et que cela, puisqu'il y a une part singulière, ce n'est jamais totalement anticipable. Et que donc la conséquence, c'est que travailler, ce n'est jamais uniquement mobiliser un système de règles, un répertoire de procédures, qu'il y a donc toujours, comme le dit Guy Jobert, une mobilisation de l'intelligence au travail. Et voilà pourquoi j'aurais tendance à dire, mais je suppose que c'était évident, sinon nous serions amenés à en parler, que la mobilisation de l'intelligence, des connaissances supérieures, extrêmement élaborées et fines, vous le voyez, dans cette perspective, n'est pas l'apanage des professions. Alors bien sûr, c'est indépendant de la définition que vous en avez donnée hier, n'est pas l'apanage des professions. Nous avons tendance, dans la tradition d'analyse du travail, à souligner que toutes les personnes, tous les opérateurs, comme on dit dans le langage un peu technique, qui travaillent, sont amenés à élaborer des connaissances extrêmement sophistiquées pour prendre en compte la complexité des situations auxquelles ils sont confrontés, et que bien sûr, C'est un problème de reconnaissance sociale ou de légitimation dans le champ, comme diraient d'autres, qui font que ces connaissances-là, extrêmement fines et extrêmement élaborées, ne sont pas reconnues, j'allais dire, à la même aune de reconnaissance sociale que les savoirs qui caractérisent les professions. Alors, une fois qu'on a ça, je voudrais introduire, à partir de la notion d'action, et une distinction que propose un auteur qui s'appelle Pierre Rabardel, qui est une ressucée de Marx, en disant, à propos de l'action, on peut distinguer une dimension constructive et une dimension productive. Alors, la dimension productive, dans l'interprétation que je vous en propose, là, c'est simplement de dire, quand on agit dans l'action professionnelle, on a pour but de produire des transformations, transformations du monde, que ce soit des transformations matérielles ou des prestations de services. Et cette dimension productive est extrêmement importante parce qu'elle conditionne des aspects de prescription, des aspects d'évaluation, etc., etc. Cette dimension productive est extrêmement prise en compte par ce qu'on pourrait appeler les définitions du travail. Nous nous situons dans un aspect plus centré sur les questions de connaissances ou de compétences. On va introduire une deuxième distinction, un deuxième élément qui est la dimension constructive. Par dimension constructive, on tend simplement à dire que le sujet ne sort pas indemne de l'action qu'il a construite. Chaque fois qu'un sujet agit, il apprend. Il apprend potentiellement. Il apprend quelque chose. Et la dimension constructive, c'est cette dimension qui permet que, à chaque action, l'expérience, comme on dit, des sujets s'enrichit, se nuance, se précise, et que donc, avec cela, on peut avoir l'idée que agir, c'est à la fois produire, et c'est aussi toujours apprendre. Et que finalement, et le nombre de travaux que nous avons conduits, notamment dans les entreprises, et même dans certains organismes de formation, nous amène à penser qu'il faut faire beaucoup d'efforts institutionnels et beaucoup d'efforts personnels pour arriver à ne pas apprendre de l'action. Et donc, on pourrait penser que cette dynamique constructive est extrêmement intéressante parce que c'est elle qui permet de rendre compte de ce qu'on pourrait appeler, alors entre guillemets, une formation tout au long de la vie, qui n'est pas une formation au sens d'une scolarisation à perpétuité, mais qui est bien l'idée que travailler, parce que c'est une mobilisation de l'intelligence des sujets, permet de construire un développement professionnel. Et sans vouloir pinailler, je propose cette notion de développement professionnel en complément de la notion de professionnalisation comme étant cette potentialité de toutes les situations de travail, de permettre le développement des sujets à partir de l'enrichissement de leur expérience. Et ce développement, nous avons tendance, alors quand je dis nous, je préciserai un petit peu tout à l'heure, nous avons tendance à le souligner qu'il se situe au moins sur trois phases en relation, reliées. Premier aspect, c'est l'aspect instrumental. Alors, travailler, c'est presque toujours, pour ne pas dire toujours, et en tout cas dans les situations contemporaines de façon massive, utiliser des artefacts pour amplifier l'action humaine. Et nous avons là une première composante de l'analyse de l'activité tout à fait importante, qui est, mais finalement, utiliser des artefacts, un tableau, la craie, un manuel, le dictionnaire ou une presse à injecter, tout ce qu'on veut, cela suppose la construction d'un certain nombre de compétences et cela permet d'amplifier l'action si et seulement si on dispose des compétences qui permettent d'utiliser l'artefact selon, on pourrait dire, une dynamique de l'activité qui est pertinente. Voilà. Et ça, je crois que je le souligne parce que ça explique par exemple un certain nombre de choses. Nous savons tous que l'informatique est une chose merveilleuse et l'ordinateur un artefact sublime. Et que, évidemment, ça permet d'amplifier les potentialités de l'action humaine de façon tout à fait intéressante. Je crois que pour comprendre un certain nombre de difficultés que des sujets peuvent avoir à s'engager ou à effectuer cette utilisation, il faut simplement se revenir à cette idée que l'artefact lui-même n'est pas porteur de l'amplification de l'action. C'est le développement par le sujet d'une utilisation qui lui corresponde qui va permettre d'obtenir les effets recherchés. Voilà. Alors cette distinction-là nous paraît très importante. C'est le premier volet, on pourrait dire, de ce que pourrait être une analyse de l'action. Il y en a un second qui est ce que les auteurs appellent souvent la dimension conceptuelle, c'est-à-dire que travailler suppose une organisation de l'action et que cette organisation de l'action, elle est faite par des connaissances. Des connaissances ou même en termes plus stricts, peut-être des concepts. Mais enfin, il y a cette idée-là. On est dans une dimension cognitive, conceptuelle. Il y a une organisation de l'action. Cette organisation de l'action, elle est stable. Elle permet donc d'anticiper. Elle permet de prévoir. Et donc, elle n'est pas variable avec la situation. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet de s'y orienter. Pour une part, elle n'est pas variable avec les sujets. C'est-à-dire que les sujets peuvent les construire, cette organisation de l'action. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet de coopérer, de se coordonner. Et il y a un troisième aspect sur lequel j'insisterai peut-être pas parce que vous devez y être largement sensible, qui est la dimension identitaire. L'action professionnelle, dans ses réussites et dans ses échecs, est à la fois une définition de soi en relation avec une culture. Et que donc, évidemment, agir, c'est à la fois s'affirmer, c'est à la fois souffrir dans son identité. Et vous conclurez peut-être de cela, en tout cas, je vous le souligne, il y a deux dynamiques dans l'apprentissage qui pourraient être à comprendre. D'une part, on aurait des difficultés à construire les compétences parce qu'on n'aurait pas les connaissances qui sont nécessaires pour utiliser les artefacts ou pour traiter les situations. Mais l'autre obstacle, que j'appellerais pour ma part obstacle identitaire, c'est qu'on ne pourrait pas construire les connaissances pour des raisons de dynamique identitaire, c'est-à-dire que la définition de soi, peut-être, me semble-t-il, j'en ai eu des exemples dans l'industrie, pas dans le travail enseignant, mais vous en avez peut-être un puissant obstacle, comme ça peut être une aide forte, ça peut être un puissant obstacle à l'acquisition et à la construction des compétences.
Oui, encore 10 minutes.
Bien, alors je vais dire deux mots maintenant pour faire transition. Dans la famille intellectuelle dans laquelle je me situe, ce que j'ai appelé tout à l'heure la tradition d'analyse du travail. Alors, d'abord, c'est une tradition, maintenant plus d'un siècle de travaux sur ces questions, avec des travaux de référence et des pionniers, des fondateurs, des grands noms, etc. Dans ce qui fait l'actualité, j'allais dire, et les collègues les plus proches, je voudrais quand même citer quelques noms parce que je crois qu'il y a un patrimoine intellectuel dans lequel nous réfléchissons et nous pensons. Parmi les cadres théoriques voisins ou avec lesquels nous travaillons, on peut citer d'abord ce que cette équipe appelle la clinique de l'activité. Regroupée autour d'Yves Clos, il y a tout un tas de chercheurs et de praticiens qui s'intéressent à ce qu'on pourrait appeler le rapport entre activité et subjectivité. C'est un point de vue clairement psychologique qui est fondé largement sur la référence à la psychologie soviétique, les travaux Vygotsky, etc., et qui essaye de montrer comment agir, c'est une épreuve de subjectivation. Voilà. Alors bien sûr, si vous avez des souhaits, on pourra fournir toutes les références bibliographiques que vous souhaitez. Le second courant, c'est celui de l'approche ergologique que propose Yves Schwartz et l'équipe APST, analyse pluridisciplinaire des situations de travail à Aix-en-Provence, qui est fondée plutôt sur la tradition philosophique. Yves Schwartz est professeur de philosophie et qui va essayer de... Pardon, je vais me rapprocher, peut-être que vous entendrez mieux. C'est mieux comme ceci. Qui va essayer de préciser ce qui est, comme il dit, la dramatique d'usage de soi. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faut user de soi-même pour pouvoir réussir les multiples défis que pose la situation de travail. Alors, il y a un troisième aspect, je citerai volontiers une perspective que je qualifierais, pour le dire vite, hein, parce que leur pensée est beaucoup plus fine, sans doute, mais que je clarifierais de sémiologique, avec les travaux de Jacques Thoreau et de son équipe, où là, on va beaucoup s'intéresser plutôt à appréhender la compétence et l'organisation de l'action à partir des significations qui sont attribuées aux éléments de la situation en cours d'action, au moment où l'action se réalise. Quatrième point, je n'y reviens pas parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, Rabardel et son équipe travaillent plutôt sur la théorie instrumentale, c'est-à-dire sur l'usage des artefacts. Et cinquième point, Gérard Vergniaud, il y a quelques années, et Pierre Pastret, plus récemment, ont développé un courant qu'ils appellent volontiers de conceptualisation dans l'action, où ils cherchent à en mettre en évidence l'organisation conceptuelle de l'action, en disant que finalement, la compétence, c'est une façon de disposer de concepts qui permettent de traiter les situations avec pertinence et efficacité. Et vous avez deux modèles chez Vergniaud. C'est une relecture de la notion de schéma chez Piaget. Et puis, chez Pastret, il y a la notion de modèle opératif, structure conceptuelle. Là encore, des textes sont accessibles, je n'y insisterai pas. L'analyse du travail apporte cela, et avec cela, apporte des concepts. Parmi ces concepts, on peut quand même citer les notions de travail prescrit, travail réel, qui ont été très fondatrices pour l'ergonomie, les notions de genre et de style, de cours d'action. Et elle apporte aussi, et c'est peut-être tout aussi important pour ce qui nous réunit, des méthodes. Parce que si la compétence se manifeste dans l'action, et si, comme on essaiera de le dire tout à l'heure, pour comprendre la compétence, il faut analyser l'action, alors se pose la question de comment est-ce qu'on peut accéder à l'action. Et ce que disait M. Bourdon hier, je le rappelle, il y a une forte composante des savoirs de métier qui est incorporé. La conséquence, c'est qu'ils ne sont pas disponibles spontanément à la conscience, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aisément, et quand je dis aisément, c'est vraiment un euphémisme, ils ne sont pas aisément formulables spontanément. C'est-à-dire que le langage n'est pas forcément le seul, voire le meilleur moyen de rendre compte de ce qui organise l'action. Et donc, les traditions d'analyse du travail ont mis en place des méthodes pour essayer de surmonter cette difficulté. Vous en connaissez certainement, instruction au sosie, entretien d'explicitation, autoconfrontation simple ou croisée, confrontation aux traces, etc. J'y insiste parce que je crois que c'est extrêmement important pour tous ceux qui ont la charge de formation que se dire que le rapport entre l'action et le langage est plus encore, le rapport entre compétence et langage est loin d'être évident, ce qui pose d'énormes problèmes pour leur construction et leur développement, et ce qui pose des problèmes encore plus redoutables pour leur évaluation. Alors, je vais dans une deuxième partie qui, vous l'avez deviné, sera brève parce que notre présidente de séance va me rappeler à l'ordre bientôt, essayer de dire ce qui est la caractéristique de la didactique professionnelle dans ce paysage, qui est un paysage commun, largement partagé, tout un tas de chercheurs. Pierre Pastret définit la didactique professionnelle en disant, ben finalement, c'est l'analyse du travail en vue de la formation. Autrement dit, on reprend l'héritage de l'analyse du travail et on essaye de l'articuler à la formation. C'est-à-dire que on essaye d'abord de donner une consistance à la notion de compétence. Alors ceci parce que, je ne sais pas vous, mais nous avons eu de colossales difficultés avec la notion de compétence. D'abord parce que c'est un truc qui a eu un succès faramineux, ça semblait désigner quelque chose de très important, tout le monde en parlait, et en même temps, il était bien délicat de savoir ce qu'on mettait dessous. Alors, certains auteurs se sont amusés à prendre des définitions, à montrer leurs incohérences ou leurs difficultés ou leur recouvrement partiel, tout ça, n'y revenons pas. La didactique professionnelle s'est efforcée de donner une définition de ce qu'elle concevait comme étant les compétences, en disant que finalement, la compétence, c'était ce qui permet une inférence à partir de l'action, et pas l'organisation de l'action elle-même. C'était une inférence faite par le sujet lui-même ou par un tiers pour dire ce qui organise sa action. Et que ça a permis de faire une distinction relativement importante, nous semble-t-il, entre performance et compétence. Et quand on voyait hier, voyez le dispositif que nous a présenté notre collègue sur son système, nous avons tendance à dire qu'il est tout à fait intéressant de distinguer performance et compétence, car dans bien des situations, la performance peut être atteinte, alors que ce n'est pas grâce à la compétence de l'opérateur. Et inversement, dans bien des situations, et sans doute encore bien plus nombreuses, les compétences des opérateurs sont infiniment plus diverses, variées, que ce que les situations permettent de le manifester par les performances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on dit que c'est une organisation conceptuelle, c'est-à-dire que c'est un ensemble de concepts, de raisonnements, d'indicateurs construits, c'est-à-dire dans lesquels il faut construire les indicateurs et leur signification, qui permettent d'engager l'action. Et que, bien sûr, cette organisation, elle n'est pas nécessairement consciente, et donc elle n'est pas nécessairement formalisée. Ce qui ferait une distinction, on retrouve là la distinction entre profession et métier que nous évoquions hier matin. Alors, je crois que ça c'est très important, parce que la didactique professionnelle a tendance à dire, si on veut former, et il faut répondre à la question former à quoi ? Et pour répondre à la question former à quoi ? Il faut mettre en évidence ce qui caractérise les compétences. Et quand on reprenait l'énoncé des 10 compétences qui nous ont été présentées hier, bien entendu, mon regard serait de dire, fort bien, on en prend une, celle que vous voulez, et puis on se pose la question, mais de quoi est-elle faite ? Alors, je les avais notées, et puis évidemment, je ne les ai plus, mais je vais vous prendre un exemple qui illustre tout à fait cela. On a travaillé avec les chefs d'établissement scolaire, et ils disent qu'ils ont une mission d'animation. Alors, animer, c'est quoi ? En quoi consiste la mission d'animation ? En quoi consiste ? Si c'est une compétence, si on reprend la définition, ça doit pouvoir se manifester dans l'action. Notre conviction, c'est de dire il faut aller jusqu'à l'action. Sinon, on va être dans le champ des discours. Le champ des discours, c'est autre chose. Il est réglé par d'autres usages sociaux. Et il nous semble que pour mettre en évidence l'organisation des compétences, il faut aller jusqu'à l'action. Alors, il faut aller jusqu'où ? Ben, notre point de vue, c'est que il ne faut pas se contenter de nommer la compétence. Nous avons actuellement beaucoup d'usages sociaux autour de la notion de compétence, et donc beaucoup de pratiques pensent qu'on a fait un grand pas en avant quand on a nommé la compétence. Je ne le nie pas. Simplement, je dis que de nommer une compétence et d'avoir un accord professionnel autour de cette nomination ne nous renseigne pas sur deux choses qui, pour nous, formateurs, sont essentielles. De quoi est-ce qu'est fait la compétence ? Et encore plus important pour nous, comment est-ce qu'on devient compétent ? Ou plus exactement, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à le devenir ? Pour pouvoir répondre à ces deux questions, il faut pouvoir caractériser la compétence et pas seulement la nommer. D'autant plus qu'il y a des nominations qui sont tout à fait vertigineuses quand on essaye d'y comprendre quelque chose en termes de compétences. J'en prends une extrêmement répandue. Vous prenez la compétence de coordination de ce que vous voulez, et tout de suite, on voit bien que dire que l'on coordonne ou dire que l'on assure du suivi de dossier ou suivi de personnes, ne nous renseigne pas du tout sur ce en quoi consiste la compétence des personnes. Alors, je crois que ça, c'est l'importance de caractériser. Il ne suffit pas de nommer, il faut analyser. Et analyser, ce n'est pas simplement décrire plus finement. Deuxième chose que je voulais préciser. Dans bien des cas, nous avons des démarches inspirées de tas de bonnes intentions qui disent, finalement, pour analyser l'activité, on va prendre l'action et puis on va dire de quoi est-ce qu'elle se compose. Et vous observerez que si on poursuit cette logique très loin, on arrive à quelque chose d'un émiettement d'actes dans lesquels les professionnels ne se reconnaissent plus tellement et dans lesquels on a réussi à avoir une succession de procédures dont on a enlevé la compétence. Donc, ce n'est pas de décrire plus finement, décrire finement certainement, mais l'émiettement ne nous renseigne pas non plus sur ce qui organise l'action. Alors, nous, notre position là-dessus, en didactique professionnelle, est de dire, ce qui nous intéresse, c'est une description suffisamment fine de l'action, telle qu'elle ait encore du sens pour ceux qui font le travail. Et d'autre part, c'est une description qui nous permet de, dans l'action, de l'analyser du point de vue de ce qu'il organise. Et je vous ai donné tout à l'heure les éléments qui nous guident dans ce travail. Voilà pourquoi on fait toujours ce détour par l'action effective, comme il était dit ce matin. Alors, à partir de là, qu'est-ce que peut-on faire? Eh bien, on peut faire plusieurs choses. On peut, première chose, j'en dirai peu parce que je ne pense pas que ça vous, ce soit dans vos préoccupations premières, on peut renforcer les effets formateurs du travail. Nous avons beaucoup de sollicitations d'entreprises aujourd'hui qui disent « la formation c'est bien, les stages c'est pas mal, mais ce qui nous intéresse c'est que vous renforciez les effets de l'expérience ». Démarches de professionnalisation dans les entreprises sont fréquemment autour de ça. Comment est-ce qu'on peut, puisque la dimension constructive est toujours présente, comment est-ce qu'on peut renforcer, étayer, optimiser? Deuxième aspect, c'est construire des situations didactiques, au sens de construire des situations pour apprendre. Si l'on connaît quelle est l'organisation de la compétence, on peut construire, notamment par une espèce de transposition didactique, si vous me passez l'expression, vous voyez bien l'idée, c'est qu'on peut prélever dans l'analyse de la compétence ce qui structure l'activité, et puis on peut recréer dans des situations de formation des situations problèmes qui vont permettre aux apprenants de construire ces compétences-là. Alors vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi le faire, puisqu'on peut si bien le faire dans les situations réelles? Eh bien parce que, vous le savez sans doute bien mieux que moi, les situations éducatives, pédagogiques, ont d'immenses qualités, notamment de permettre de prendre plus de temps, de permettre de se tromper, de permettre de réfléchir, d'hésiter, de revenir en arrière, et surtout de permettre de limiter les dégâts, car il y a bien des choses que l'on ne peut pas apprendre ou que socialement on n'est pas prêt à apprendre dans des situations réelles. Enfin, dernière chose, on peut concevoir des dispositifs, non plus des situations, mais des dispositifs de développement des compétences. Et pour notre part, ce qui nous a beaucoup travaillé, on a beaucoup été sollicité sur un type de dispositif, évidemment, qui sont les dispositifs de formation en alternance. Puisque l'alternance, c'est deux situations, situation de travail, situation de formation, comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut... Alors par exemple, comment est-ce qu'on peut comprendre le rôle du tuteur? Qu'est-ce que c'est qu'un tuteur? Qu'est-ce que c'est qu'un bon tuteur? Est-ce qu'il y a des bons tuteurs? Est-ce qu'un bon tuteur, c'est un pédagogue? Est-ce que c'est pas un pédagogue? Comment est-ce que... Sur quoi est-ce qu'on peut... Quels sont les outils du tutorat? Voilà. Par exemple, nous avons tendance, dans ces démarches-là, toujours pareil, à revenir sur la situation de travail et à dire, bah, finalement, dans le tutorat, on se rend compte de l'importance de la construction de la situation, de l'importance de la prescription, de l'importance des proscriptions, de l'importance des diagnostics, de la situation de l'apprenant, et tout un tas de choses qui tournent autour. Alors, je vais le dire comme ça, puis si ça ne convient pas, je changerai mon propos, qui tournent autour de l'aménagement d'une zone de développement potentiel pour un sujet particulier, dans une situation qui, par ailleurs, est une situation productive, pour reprendre le terme tout à l'heure. Voilà. Donc, ces trois aspects correspondent finalement à ce que nous appelons du conseil professionnel, du conseil didactique, l'intervention didactique et l'ingénierie didactique. Dans ces cas-là, dans ces aspects, on a tendance, et je terminerai là-dessus, à souligner trois choses. Trois choses qui nous préoccupent, dont on trouve que ce sont des mines pour l'action des éducateurs et des mines pour la compréhension des situations d'apprentissage. Le premier, c'est qu'on apprend plusieurs fois par l'action. On apprend bien sûr quand on agit. C'est ce que j'ai dit en introduction. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un potentiel d'apprentissage considérable dans la préparation de l'action. On apprend avant l'action, avant de la faire, en la réfléchissant, en la formalisant, en la prévoyant, alors même que l'on sait très bien qu'entre ce qu'on a prévu et ce qui va se faire, il y aura des écarts, et que bien sûr ces écarts sont extrêmement intéressants parce que ce sont des occasions d'apprentissage, on s'est rendu compte que inviter les apprenants à mentaliser l'action avant de la faire, était un élément qui permettait de contribuer à l'apprentissage. On en a à la fois une explication, on va dire un peu théorique, et puis des exemples tout à fait concrets dans des dispositifs. Mais surtout, on a beaucoup découvert et mesuré l'importance de l'apprentissage après l'action. L'importance de l'apprentissage après l'action, parce que quand on est dans l'action, on est, j'allais dire, comme on dit, la tête dans le guidon, il y a un tas d'urgences, etc. qui jouent. Après l'action, on s'est rendu compte de l'intérêt et de l'importance de deux processus tout à fait, j'allais dire, à la fois essentiels et extrêmement répandus, que sont les processus de discursivisation et de narration. Mettre en discours, simplement arriver à mettre des mots sur ce qui s'est passé, a un potentiel de développement professionnel tout à fait important. Alors, on s'en est rendu compte, notamment pour des choses qui ne sont pas du tout pédagogiques, parce qu'on s'en est rendu compte à propos, par exemple, de l'obligation qui était faite de rédiger des comptes rendus d'incidents, vous voyez, dans les systèmes industriels, de faire des rapports d'activité, de faire des comptes rendus d'activité, de faire des rapports de stage. Donc, vous voyez, tout un tas de choses qui sont intéressantes et qui ont été travaillées aussi ici. Narrativisation, parce que la configuration en histoire, le fait d'avoir à construire une histoire, suppose d'élaborer, alors là je fais juste référence aux travaux de Ricoeur qui nous ont beaucoup influencés, suppose d'élaborer une intrigue qui permet de structurer des épisodes, et que évidemment, dans l'organisation de l'intrigue et la structuration d'un épisode, nous avons déjà quelque chose qui correspond relativement bien à l'organisation de l'action. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il y a là trois manettes ou trois volets pour apprendre par l'action. Quand on la fait, quand on la prépare et quand on y repense. Que ce soit dans des situations formalisées, hein, par exemple, situation très typique dans les situations d'alternance, les séances d'analyse du retour en entreprise. Les stagiaires sont allés en entreprise, ils reviennent le lundi matin, on fait une séance et on cause de ce qui s'est passé. Les formateurs nous disaient la grande difficulté qu'ils avaient à animer ces séances. On a essayé de construire avec eux, de comprendre pourquoi, et puis de construire avec eux des outils, des guides pour utiliser ce potentiel d'apprentissage qu'il y a dans la reconfiguration de l'action passée, dans le langage et dans la communication collective. Deuxième aspect, c'est l'intérêt des écarts. Je ne vous ai pas dit que la didactique professionnelle héritait aussi de la psychologie cognitive et de l'ingénierie de formation. Et en ingénierie de formation, on a quelque chose qui est assez traditionnel, c'est qu'on va sur les sites terrain et puis on regarde les situations et on met en évidence des écarts. Et une pratique assez courante est de dire que finalement, la formation, ça sert à réduire l'écart qu'il y a entre ce qu'il faudrait faire et ce qui se fait. La tradition d'analyse du travail nous dit premièrement, attention, si les choses se font comme ça, c'est qu'il y a sans doute de bonnes raisons, il serait prudent de les construire, de les comprendre, parce que nombre d'interventions qui visent à transformer les situations pour les améliorer, les dégradent. La seconde chose, c'est que ce que nous remarquons, c'est que les écarts par rapport à ce qui devrait être, par rapport à ce qui est prescrit, par rapport aux écarts entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, toutes sortes d'écarts que l'on peut repérer au propos du travail, sont extrêmement intéressants à interroger, sont extrêmement intéressants parce que ce sont des zones de développement, des zones d'apprentissage. Et que si les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, il y a bénéfice pour l'organisation et aussi pour le sujet à en prendre conscience et éventuellement à pouvoir le documenter, l'expliciter et parfois le modifier, mais pas toujours. On se rend compte qu'il y a nombre d'écarts qui sont extrêmement vertueux. Enfin, dernière chose, c'est de revenir, et ce sera ma conclusion, sur l'importance de la notion d'activité. J'ai été un peu lâche puisque je ne me suis pas livré à une définition de ce terme, renvoyant pour cela aux bons auteurs dont je vous ai cité les noms précédemment. Éventuellement, nous pourrions en parler. Je crois que ce qui est tout à fait central de l'approche de didactique professionnelle et plus particulièrement des approches contemporaines d'analyse du travail dans ses relations à la formation, c'est de souligner, avec ce concept d'activité qu'on essaye de construire, l'importance de la mobilisation des personnes dans les situations, la richesse et le potentiel d'apprentissage qui s'y joue, et en même temps, avec ce concept, nous disposons, c'est du moins l'expérience que nous en avons, d'un analyseur très fort des situations de formation. C'est-à-dire que ce qui est construit pour décrire le travail, nous pouvons avec beaucoup d'intérêt le retourner vers nos écoles, vers nos centres de formation, vers nos propres pratiques enseignantes, pour y trouver matière à développement professionnel. Voilà, j'espère que je n'ai pas abusé de votre temps et je vous remercie.